France Inter, le 18-20.
Et maintenant, c'est à vous de jouer. Le téléphone sonne, c'est votre émission. On attend vos appels et vos courriels. Et un rappel, vendredi, ce sera la journée internationale des droits des femmes. Et ce soir, on va s'intéresser à un secteur qui a encore beaucoup de progrès à faire. Le secteur informatique. En France, le nombre d'ingénieurs, avec un E, ingénieurs E, en informatique est passé en 30 ans du tiers des effectifs à 15%. Et pourtant, il existe des politiques publiques depuis longtemps en faveur des femmes dans les métiers du numérique. Comment en est-on arrivé là? On va essayer de répondre au cours de cette émission. Quelques chiffres éloquents encore chez nous, en France. 14%, c'est la part des femmes dans le cursus des grandes écoles d'ingénieurs informatiques. La part des femmes dans les autres cursus informatiques, à l'université, 10%. En IUT ou BTS, 8%. Comment changer cette situation? Est-ce que vous la subissez? N'hésitez pas, appelez-nous au standard 01 45 24 7000. Envoyez-nous des courriels sur le site de l'émission, téléphone sonne, franceinter.fr.
Pierre Veil, le téléphone sonne.
Et pour vous répondre et commenter vos remarques ou témoignages, nos invités, Marie-Hélène Drivaud, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice éditoriale du Robert. Avec vous, on parlera aussi de l'évolution du langage avec ce qui s'est passé tout récemment à l'Académie française, puisque l'Académie française a finalement accepté la féminisation de certains noms de métiers et de professions en acceptant une évolution naturelle des pratiques du langage. Marie-Hélène Drivaud, directrice éditoriale du Robert, à vos côtés. Rebecca Amselem, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes fondatrice de la newsletter féministe Les Glorieuses. Les Glorieuses, c'est quoi exactement? Dites-nous.
Alors, Les Glorieuses, c'est un projet que j'ai lancé il y a un peu plus de 3 ans, qui est une newsletter, donc un email que j'envoie tous les mercredis à une communauté. Aujourd'hui, on est un peu plus de 100 000, il y a un peu plus de 100 000 lectrices et lecteurs à la newsletter. Donc, chaque semaine, je vais parler d'un sujet qui touche les femmes. Je vais citer uniquement des femmes. Et ça peut être un sujet politique, un sujet plus personnel, ça va dépendre des semaines.
Et puis, un invité dans les studios de nos amis de France Bleu Occitanie, à Toulouse, et on les remercie de nous permettre de réaliser cette liaison. C'est Henri Dagrin. Vous êtes Henri Dagrin, délégué général du SIGREF, réseau d'entreprises du numérique, et vous êtes porteur de la démarche femmes@numérique en faveur de la féminisation des métiers du numérique. Henri Dagrin, bonsoir.
Bonsoir.
On va tout de suite aller au standard du téléphone sonne pour retrouver une auditrice. Je ne lis pas bien son nom. Rime, c'est Rime. Bonsoir Rime.
Oui, bonsoir.
Vous vouliez témoigner, poser une question sur ce problème de la présence des femmes dans le numérique, une présence qui est en baisse constante.
C'est ça, ben, je voulais témoigner. En fait, je suis administratrice système. Je m'occupe d'administrer et de configurer des serveurs web. Et ben, mon métier est purement informatique pure, système. Et moi, le problème pour moi aujourd'hui, c'est que dès le jeune âge, on a tendance à plutôt catégoriser telles matières sont faites pour les filles, telles matières sont faites pour les garçons. On a tendance à plus orienter les garçons vers les maths, même si les filles sont quand même assez, elles vont aussi vers cette direction, mais elles sont plus orientées vers la biologie, les sciences ou les matières littéraires. Moi, je pense que le problème, il vient vraiment de là, que dès le jeune âge, les parents et puis le corps enseignant enlever le fait de genrer les matières. Et autre chose aussi, c'est qu'aujourd'hui dans mon métier, aujourd'hui encore, j'ai des clients qui appellent et qui pensent que je suis la secrétaire ou qui me disent mais vous êtes sûr que vous êtes partie de telle équipe, que vous allez réussir à faire ça, que vous allez pouvoir faire ça, traiter ça. Moi ça me choque encore quand me tiennent encore des propos comme ça. Et je pense que la base vient de l'éducation et le problème vient déjà de l'éducation repartir sur de bonnes bases, je pense.
Merci d'avoir témoigné, Rime, Rebecca Amselem. Est-ce que vous êtes étonnée par ce qu'il vient de nous raconter, Rime, le fait que sa présence en tant qu'administratrice système, ça surprend?
Malheureusement, je suis pas du tout étonnée de ce témoignage et je pense que c'est extrêmement fréquent parmi les femmes qui travaillent dans le secteur du numérique. Alors effectivement, il existe plusieurs conséquences qu'on connaît au manque de femmes dans le secteur du numérique, et on peut penser notamment au fait que les algorithmes aujourd'hui sont pensés par et pour les hommes, et donc les algorithmes prenant quand même une part de plus en plus importante dans nos vies de tous les jours, ça met de côté finalement les services dont les femmes auraient besoin. Et après, effectivement, le problème, on peut pointer l'éducation, effectivement, comme une des sources qui expliquerait le fait que dans le secteur du numérique, il y ait uniquement 14% de femmes en France, mais pas que. Je pense que le secteur du numérique, c'est un secteur qui est fondamentalement sexiste. Peut-être plus sexiste que d'autres secteurs aussi. Je pense que c'est un environnement qui est hostile aux femmes. Il y a une culture du numérique qui fait que les femmes n'ont pas forcément envie de travailler dans ce secteur-là. Et alors, en fait, quand on parle du manque de femmes dans le numérique, ou dans n'importe quel secteur d'ailleurs, on a tendance à dire les femmes devraient oser davantage. Les femmes devraient faire telle ou telle étude. Et je pense que finalement, ce n'est pas aux femmes de changer quoi que ce soit. Je pense que c'est aux hommes qui travaillent déjà dans ce secteur-là. Et je pense que c'est à eux de changer la culture de cet environnement pour faire en sorte que les femmes aient envie d'y travailler.
Henri Dagrin, vous êtes à Toulouse dans les studios de France Bleu. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Rebecca Amselem, c'est-à-dire que ce milieu numérique est un milieu sexiste ?
J'apporterai quelques nuances, hein, non pas parce que je suis un homme, mais parce que ce que j'observe au sein des entreprises qui sont soit des utilisatrices de systèmes et solutions numériques, soit au sein de l'industrie du numérique, ce que énonce votre interlocutrice a pu être vrai à un moment donné dans ce milieu-là, aujourd'hui, il y a une attente très très importante de la part de l'ensemble du monde économique, hein, d'un renforcement du nombre de femmes dans ces effectifs pour plusieurs raisons. D'abord, ce effectivement qui vient d'être cité, c'est celui d'un numérique, d'une société de plus en plus algorithmisée qui ne peut pas être conçue, pensée et uniquement développée par des hommes. Mais également parce que aujourd'hui le numérique est devenu un des facteurs essentiels de la croissance de notre économie, de la compétitivité des entreprises, et que c'est très directement les compétences, les talents dans le numérique qui permettent de porter cette compétitivité, cette croissance. Absolument essentiel que dans une phase où le numérique est devenu ce facteur essentiel pour l'économie, l'un des facteurs essentiels bien sûr, il y ait beaucoup plus de talents. Et aujourd'hui, on est déjà dans une pénurie de talents. Donc, il est absolument essentiel pour cette deuxième raison, à côté de cette raison sociétale de la société algorithmisée, pour des raisons économiques. Il faut absolument qu'il y ait plus de femmes. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous avons lancé, avec les entreprises, avec les acteurs, avec les praticiens du numérique, cette action en faveur de la féminisation des métiers du numérique, et qui, aujourd'hui, a réuni un ensemble très vaste d'associations, il y en a plus d'une cinquantaine, d'entreprises, plus de 50 entreprises qui se sont mobilisées, grandes entreprises, et également les pouvoirs publics, mais on pourra y revenir.
Les pouvoirs publics font quoi exactement ?
Eh bien, nous avons donc lancé, il y a maintenant un peu plus d'un an, cette action en faveur de la féminisation des numériques. Il s'agit de se dire que nous sommes en fait... Et je ne reprendrai pas cette expression le secteur du numérique est sexiste. Ce que l'on constate, c'est qu'au tournant des années 80, au milieu des années 80, effectivement, le numérique a été perçu, et c'est vrai dans l'essentiel des pays occidentaux, comme un secteur essentiellement masculin. Et là, ce qui s'est passé, c'est que progressivement, eh bien, les femmes se sont détournées de ces métiers. Il n'y a pas de responsabilité, soit des femmes, soit des hommes, mais nous avons une responsabilité collective de l'ensemble de la société. Et il faut qu'aujourd'hui, les familles, les parents, les enseignants, les éducateurs, les pouvoirs publics, que tout le monde se mobilise
pour expliquer
dès le plus jeune âge aux petites filles dans le primaire, aux collégiennes, aux lycéennes, que oui, les métiers du numérique peuvent se décliner au féminin.
Pardonnez-moi.
Et c'est pour ça que nous avons engagé ce mouvement que nous souhaitons le plus profond possible, le plus vaste possible, en faveur de la féminisation des métiers du numérique.
Henri Dagrin,
sont les hommes et les femmes ensemble qui y contribueront.
Vous n'avez pas répondu à ma question, pardonnez-moi. Que font les pouvoirs publics pour vous aider ?
Alors, les pouvoirs publics, très concrètement, le secrétaire d'État chargé du numérique, Mounir Majoubi, est lui-même impliqué et porte cette démarche en faveur de la féminisation des métiers du numérique dans plein d'actions différentes que je pourrais vous décrire. Mais il a fait de cette de cette démarche en faveur de la féminisation des métiers du numérique, Fatah Numérique. Il en a fait la déclinaison au niveau de son département ministériel, de la grande cause du quinquennat d'Emmanuel Macron, hein, du président de la République, en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un sujet absolument essentiel qu'il va porter. Et il est là pour mobiliser les pouvoirs publics. Et déjà, l'éducation nationale, à travers Jean-Michel Blanquer, a pris des engagements pour permettre à cette démarche de se développer directement dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Si on n'ouvre pas l'éducation nationale, toutes nos actions restent vaines. Vous voyez, il faut qu'on puisse accéder aux jeunes filles, qu'on puisse aux collégiennes, aux lycéennes. Surtout dans ces moments où se cristallisent des orientations en troisième, entre la terminale et la première et la terminale, au moment où les choix vont être faits, absolument pour que on se retrouve avec, dans l'enseignement supérieur, dans sa diversité, dans toutes ces filières de formation, qu'il y ait des jeunes filles qui s'engagent. Aujourd'hui, on est dans une situation catastrophique, hein, et n'ayons pas peur de le dire, 10% à peine dans l'enseignement supérieur, dans ces filières de formation aux métiers techniques du numérique, c'est pas suffisant. C'est très 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 faible. Alors, et nous allons à la catastrophe si nous continuons comme ça.
L'auditrice, la première auditrice que nous avons entendue au début de l'émission, RIM, insistait sur l'éducation. Alors Marie-Hélène Drivaud, je rappelle, directrice éditoriale du Robert, cette évolution du langage, on a reçu le feu vert de l'Académie française pour la féminisation des noms de métiers et de professions. Vous pensez que ça fait partie, ça peut jouer, ça peut aider à changer les mentalités?
Oui, mais les Français ont accepté depuis longtemps cette féminisation des noms de métiers, hein, ils les emploient quotidiennement. Évidemment, nommer les femmes et leurs compétences, c'est un aspect essentiel, mais on rencontre tout de même encore beaucoup de résistance, et quand je lis les réactions du public aux différents articles parus ces jours-ci sur la féminisation acceptée par l'Académie, c'est assez désespérant, et on rencontre toujours des arguments, toujours les mêmes d'ailleurs. C'est une question accessoire, il y a des problèmes beaucoup plus importants, il y a un neutre en français. Non, c'est pas vrai. Il y avait un neutre en latin, il n'y en a pas en français. Et comme par hasard, ça serait le masculin, le neutre. Écrivaine, c'est pas beau. Pourquoi? Ça rime avec châtelaine. C'est assez joli. Les femmes n'en veulent pas. C'est faux. La plupart des femmes veulent qu'on les appelle par un nom qui correspond à leur genre et à leur sexe. On ne comprend pas bien, parce que la préfète, c'est la femme du préfet. Ça peut être aussi une autre fonction. Et la cuisinière, c'est aussi un meuble. Ça n'a jamais empêché tout le monde d'employer le mot cuisinière. Il y a surtout les 3G français, galanterie, grivoiserie, goujaterie, qui font que chez fesse, ça sonne bien. Sous-entendu, ça rime avec fesse. C'est toujours, on tombe toujours dans ces arguments complètement ridicules. Et on a l'impression aussi que vraiment, il y a encore du travail à faire, même si la langue se prête tout à fait à cette féminisation. Et rien ne s'y oppose, sinon des raisons symboliques, idéologiques.
Et l'Académie française reconnaît que finalement, elle, institution très, très, très ancienne, elle suit le mouvement, elle s'adapte à l'évolution naturelle du langage, la façon dont nous nous exprimons.
Oui, je vous dis, rien ne s'y oppose. Les intéressés, la plupart du temps, sont d'accord. Donc, au nom de quoi on résisterait ?
Valérie est au standard et elle patiente depuis un bon quart d'heure. Bonsoir Valérie, merci d'être avec nous.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Vous m'entendez ?
Oui, très bien.
Moi, je voulais porter un témoignage. En fait, je dirige un petit atelier de graphisme et de communication visuelle depuis une vingtaine d'années. C'est un atelier qui fonctionne bien, qui travaille essentiellement dans le domaine public et dans la culture. Et donc, je dépends de commanditaires. Dans ces domaines-là, en fait, mes commanditaires, comme c'est un secteur non marchand, mes commanditaires sont essentiellement des femmes. Il y a beaucoup de femmes. Et je constate, en fait, que dans mes activités, toute la partie web, toute la partie motion design, tout ce qui est lié au numérique, fonctionne nettement moins bien que toutes les autres parties, qui sont les affiches, l'édition, voilà. Et donc, je constate que de la part de mes commanditaires, dont, encore une fois, beaucoup sont des femmes, il y a une frilosité, et en fait, à discours égal, à compétences égales, mes commanditaires préféreront un monsieur. Et parfois, je suis allée vérifier les résultats, qui, généralement, en plus, sont pas terribles. Donc, c'est quand même... voilà. Et en fait, on va au-delà du symbolique sur ces questions-là, puisque toute cette partie-là est nettement plus rétributrice. que les autres domaines que je fais. C'est-à-dire que, attention, il n'y a pas qu'une histoire de symboles, des femmes qui seraient frileuses dans ce domaine et tout ça. C'est que ce sont des domaines aussi moins accessibles parce qu'ils sont, c'est souvent des dossiers plus intéressants et nettement plus rétributeurs, comme par hasard.
Valérie, merci d'avoir témoigné. Rebecca Amselem, fondatrice de la newsletter féministe Les Glorieuses, un commentaire à ce propos ?
Ah bah, merci infiniment pour ce témoignage qui correspond vraiment totalement à la réalité. Effectivement, on a tendance à dire que si les femmes ne choisissent pas le domaine ou les métiers dans le domaine du numérique, c'est parce qu'elles sont trop frileuses ou c'est parce qu'elles n'auraient pas eu les bons mots lors de leur choix en troisième, seconde et j'en passe. Si jamais elles ne le choisissent pas, c'est aussi parce qu'elles sont systématiquement écartées au profit de personnes qui, et quand je dis personnes, d'hommes, qui auraient supposément plus de compétences qu'elles. Et c'est faux. Les hommes n'ont pas plus de compétences que les femmes, ça se saurait. Mais plutôt que de parler finalement de féminisation du secteur du numérique, je pense qu'il faut davantage parler de démasculinisation du secteur du numérique. L'idée, c'est pas de féminiser davantage. Et en fait, je pense que cette notion de démasculinisation, on peut l'employer pour le secteur du numérique, mais aussi pour la langue française en règle générale. L'idée, c'est pas de faire en sorte que ce secteur devienne féminin, mais c'est de faire en sorte que ce secteur devienne plus égalitaire pour les femmes et pour les hommes. Je pense que c'est effectivement très important qu'il y ait des mesures et un engagement des pouvoirs publics pour favoriser une augmentation, en tout cas le fait qu'il y ait plus de femmes dans le secteur du numérique. Mais je pense que si jamais on se cantonne à l'éducation, on ne va pas vraiment aller bien loin.
Intervention d'Henri Dagrin en duplex à Toulouse. Je rappelle, un délégué général du réseau d'entreprises du numérique SIGREF.
Oui, merci. Effectivement, et ce que vient de dire votre auditrice, forcément, il y a des cas qui sont dans cette nature. Mais je voudrais de grâce aussi que l'on n'oublie pas qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises en France sont engagées dans cette... alors, on peut dire démasculinisation ou féminisation, c'est les mots, à la limite, c'est pas tellement ça qui est important. Mais c'est de faire en sorte qu'il y ait effectivement une mixité qui permette l'harmonie dans les équipes informatiques des entreprises, qui permettent l'harmonie dans l'industrie du numérique, c'est absolument essentiel. Et puis, je peux vous garantir, et j'en ai également de très nombreux exemples, où aujourd'hui, à compétence égale entre un CV de femme et un CV d'homme, eh bien, les entreprises préféreront choisir, dans des compétences numériques, préféreront choisir une femme, parce qu'aujourd'hui, ces entreprises se rendent bien compte qu'elles en manquent cruellement, qu'il n'y en a pas assez. Vous savez, il y a une association qui s'appelle le CRIP, hein, qui réunit les directeurs de la production. C'est-à-dire, vous savez, la production en informatique, c'est vraiment le dur du dur dans ces métiers. Sur 9000 membres, 5% de femmes. Et ça, c'est un drame pour tout le monde.
Alors, on connaît vraiment les
interventions de Rebecca Amselem. Oui.
On connaît effectivement le drame et le fait qu'il y ait très peu de femmes dans ce secteur-là. Vous dites que les mots n'ont pas d'importance. Je pense qu'au contraire, les mots ont toute leur importance. Je pense que c'est vraiment un élément, au-delà d'un élément symbolique, c'est un élément qui permet de faire en sorte de rendre davantage visible et même de revisibiliser les femmes dans l'espace public. Les femmes ont été invisibilisées de la langue française, non pas parce que je ne sais même pas pourquoi finalement les femmes auraient été invisibilisées, mais il y a eu une vraie volonté de l'Académie française de faire en sorte que le neutre soit masculin et que les femmes soient systématiquement, ou en tout cas le féminin, soit mis de côté. Typiquement, la règle, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin, règle que tous les enfants apprennent à l'école, est une règle finalement assez récente. Avant, il y avait quand même l'accord de proximité. Ça veut dire que la règle grammaticale faisait qu'on accordait le verbe avec finalement le sujet le plus proche. Donc finalement, c'est très récent que même cette phrase « le masculin l'emporte sur le féminin » existe dans la langue française. Donc les mots ont toute leur importance.
Le féminin invisibilisé, dit Rebecca Amselem, Marie-Hélène Drivaud.
Oui, et c'est
vous
pour ça que dans
directrice éditoriale du Robert.
Oui, bien sûr, et c'est pour ça qu'un dictionnaire comme Le Petit Robert doit rédiger de manière à respecter l'égalité entre les sexes, à représenter de manière égale les hommes et les femmes. Ça passe par la féminisation des noms de métiers. Je crois que pour ça, Le Petit Robert est reconnu comme tout à fait favorable.
Et en avance sur l'Académie française.
Ah oui, mais ça, tous les dictionnaires, les définitions prenant en compte les hommes et les femmes, quand je définis violoniste comme musicien, musicienne qui joue du violon, ou accordéoniste, personne qui joue de l'accordéon, ça prend aussi bien en compte Yvette Horner que Marcel Alzola, hein, comme ça tout le monde est représenté, c'est très bien, et surtout aussi très important dans un dictionnaire, parce que c'est ambigu, distinguer homme de être humain, parce qu'on a cette ambiguïté en français que le mot « homme » désigne à la fois quelqu'un de sexe masculin et les hommes et les femmes. La moitié des hommes sont des femmes, c'est bien un problème. Et donc, jusqu'à présent, dans le Petit Robert, les femmes n'avaient pas de visage, puisque c'était la partie antérieure de la tête de l'homme, et elles n'avaient pas d'âme non plus, puisque c'était le principe spirituel de l'homme. Donc, toutes ces occurrences du mot « homme » ont été revues dans le Petit Robert, et on a distingué soigneusement les testicules, la pomme d'Adam, c'est bien l'apanage de l'homme, mais l'âme, le cœur, les bras, les dents, les cheveux sont partagés par tous les êtres humains. Et ça, c'est un gros travail et nous sommes très fiers de l'avoir fait.
Bruno est à Nantes et écoute notre émission. Il souhaite y participer. Bruno, c'est à vous maintenant.
Oui, bonsoir. Merci de prendre mon appel. Un témoignage et une question que je pose à vos invités. Je travaille dans un service informatique d'une grande administration. On est à peu près 16 là localement. Et je dirais, on va passer, on avait 12, donc là on a 12 collègues hommes et 4 collègues femmes. 3 sont partis ou vont partir en retraite, il n'en restera qu'une. Et le profil, en gros, des 3 collègues qui partent en retraite, ce sont des femmes qui étaient là au moment de l'arrivée de l'informatique dans mon travail. Elles ont été recrutées en interne, formées en interne, sélectionnées, etc. Donc avec des compétences qui ont été reconnues, des capacités à se former. Et elles ont eu leur parcours interne dans l'entreprise, dans l'informatique, depuis la gestion de réseau jusqu'à la programmation. Oui. D'application. Et pas de souci. Et je comprends pas, il y a eu un espèce de trou d'air dans les recrutements féminins des métiers d'informatique. A priori, on a arrêté de proposer ces déroulés de carrière en interne et on ne s'est plus appuyé que sur des recrutements sortis d'école d'informatique, formation initiale, existante, etc. Et là, en 25 ans, il n'y a peut-être qu'une seule femme qui a été recrutée. Toutes les autres avaient été recrutées au début, au milieu des années 80, et partout en retraite.
Mais Bruno,
donc,
oui.
Qu'est-ce qu'on a loupé, quoi ?
Bruno, et lorsque vous interrogez des responsables de votre administration sur ce problème que vous soulevez, qu'est-ce qu'on vous répond ?
Écoutez, on me répond, on va sur les salons de l'emploi en essayant de sensibiliser un maximum, enfin les rares informaticiennes qui sortent d'école pour qu'elles viennent travailler chez nous. Et on essaie de faire en sorte de leur présenter une image du métier qui est féminisé en le présentant avec un homme et une femme. Mais ça va être de plus en plus compliqué parce qu'il ne nous reste qu'une femme.
Merci d'avoir témoigné, Bruno. Au standard encore, Mélie est avec nous. Bonsoir Mélie.
Bonsoir. Donc Mélie, oui, d'Aix-en-Provence. Super.
Bienvenue.
Sujet, très très intéressant, merci. Débat de ça, et pour moi là c'est une porte ouverte pour encore du changement, parce que c'est mon combat depuis plus de 10 ans. Voilà, je suis ingénieure technico-commerciale pour un grand acteur du numérique, donc je suis ingénieure réseau de formation, je vais aider mon master dans les conditions qu'elles sont, mais je me suis accrochée et ensuite trouver un emploi et ne pas hésiter aussi à changer d'entreprise pour être valorisée pour ce que le métier que j'ai envie de pratiquer à hauteur salariale de mes collègues masculins. Voilà, je vous ai résumé ça, mais je vais détailler un peu plus. En ce qui concerne le parcours scolaire, en effet, je rejoins à un moment donné ce que vous disiez, il y a des changements. C'est ce qui m'a motivée aussi à faire ce métier-là. J'étais partie sur autre chose et puis je me suis remise en question. En BTS, on y a très, c'est pas longtemps maintenant, mais je me suis dit, bon, j'ai envie de faire ça. Et la première réaction, ingénieur réseau, autour de moi, c'était sûr, c'est un métier d'homme. Je dis, ben non, je vais y aller. Puis en effet, j'étais la seule fille de la formation, bon déjà. Et la première difficulté que j'ai eue, c'est pas tant au niveau des formateurs, qui mettait en avant, il y a une fille enfin dans l'équipe, etc. J'espère qu'elle va rester, super. Mais c'était au niveau de mes collègues déjà à l'école, des élèves. Donc en fait, ils m'ont pas traité à égal. Il a fallu que je me batte pour qu'ils travaillent des TP avec moi. C'est-à-dire, on s'entendait bien, je me défendais aussi sur le sujet, et tant que j'avais pas cumulé X bonnes notes pour ben en fait mes collègues masculins voulaient juste au niveau des TP de tout, j'avais du mal à me faire entendre, j'étais plus timide à l'époque, mais ça m'a aidé à m'affirmer. Donc déjà premier point.
Vous avez réussi, Mélie, à faire votre chemin, vous êtes ingénieur réseau aujourd'hui. Est-ce que vous avez toujours le sentiment d'être une personne qui surprend l'entourage masculin qui travaille autour de vous?
Oui. Avec mes clients, tout. Il est arrivé, je vais donner une anecdote, je ne vais pas citer le client, je suis ingénieur technico, j'accompagne une équipe de vente. Et puis en fait, un client qui carrément a dit, il est où l'ingénieur? Où est l'ingénieur? Alors que j'avais été présenté, il m'a ignoré pendant un moment. Heureusement que de plus en plus, les mentalités changent. Mais moi, même par rapport à mes collègues masculins, il y a aussi l'intergénérationnel, il faut s'affirmer d'autant plus. Même je me rends compte que j'ai posé ma voix autrement. Il a fallu que je change des choses chez moi. À un moment donné, je voulais pas devenir masculine, excusez-moi le terme. Et puis après, j'ai réajusté.
Émilie, une question encore, parce que j'ai peur que la communication coupe, le téléphone n'est pas très très bon. Niveau salaire, vous avez même salaire qu'un homme dans votre domaine?
Ben non, malheureusement, et j'ai changé 3 fois d'entreprise pour ça aussi. Là, celle où je suis bien. Et au départ, quand je croyais qu'au niveau salarial, j'y étais, je me suis renseignée. Maintenant, on parle à notre génération, le salaire n'est plus un tabou, faut le dire. Et j'ai fait mon enquête pendant un moment, et puis en fait, j'ai encore 500 euros net de moins que mes collègues, il n'y a pas de raison. Alors que ça fait 7 ans qu'on pratique le même métier et que même j'ai rajouté des actions de chef de projet au-delà de tout ça que eux ne font pas. Et quand je vais voir la direction, c'est parce qu'il y a eu à un moment donné une loi égalité homme-femme, ils m'ont donné un petit quelque chose, ok, je le note. Et quand chaque fois que je vais voir ma direction, ils me disent d'après le nuage de points, votre âge et tout, vous êtes juste en dessous, là vous y êtes, mais et par rapport à mes collègues, non, ça n'en parle pas. Ça dépend de comment vous allez nous négocier, on me sort toujours quelque chose.
Toujours une bonne raison pour ne pas réaliser la véritable égalité salariale. Merci Mélie d'avoir témoigné sur l'antenne. À Toulouse, Henri Dagrin veut réagir.
D'abord, je voulais féliciter Mélie pour sa pugnacité et l'encourager à continuer. Je veux l'engager à rejoindre la mobilisation exceptionnelle que l'on va inscrire dans la durée, notamment de cette mobilisation Femmes Actes Numériques. Elle peut rejoindre l'annuaire des 10 000 femmes du numérique pour devenir un de ces rôles modèles qui vont nous aider et aider ces milliers de femmes qui ont déjà rejoint cette mobilisation pour aller présenter ces métiers du numérique, ces femmes inscrites dans les métiers du numérique, dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées. Je propose à Mélie de me contacter dès qu'elle le pourra à travers le site Femmes Actes Numériques pour pouvoir rejoindre cette mobilisation et devenir un rôle modèle.
Après cette communication de Mélie, aussi le commentaire de Rebecca Amselem.
Je pense que c'est extrêmement triste et c'est quand même vraiment pas juste que cette femme ait eu à se, comme elle le dit, à se masculiniser pour pouvoir réussir dans son secteur. C'est absolument anormal. Et quand je parle de démasculiniser le secteur et de faire en sorte que la culture numérique ne soit plus une culture sexiste, c'est exactement de ça dont je parle. Il faut arrêter de dire aux femmes de se transformer en hommes pour pouvoir réussir dans un secteur majoritairement masculin. Il faut changer la culture du secteur. Et un autre élément qui était extrêmement important dans ce témoignage, c'est le problème de l'inégalité économique. Tant que les femmes n'auront pas une égalité salariale, et c'est ce qu'on fait avec les Glorieuses, avec le mouvement du 6 novembre 15h35, qui est le moment symbolique où les femmes devraient s'arrêter de travailler du fait des inégalités salariales, tant que les femmes n'auront pas d'égalité économique, elles ne pourront pas prétendre à une égalité sociale, à une égalité réelle. Et en fait, à mon sens, si jamais on veut vraiment faire en sorte que les femmes soient davantage dans le numérique, il faut faire en sorte de leur donner du pouvoir économique. Je ne sais pas si vous savez qu'en France, en 2016, les startups qui appartiennent à des femmes ont levé 126 millions d'euros. C'est beaucoup, 126 millions d'euros. Et ben en fait, ça représente 7% du montant total. Ça veut dire que 93% du mouton levé pour les startups qui sont spécialisées dans les technologies innovantes appartiennent à des hommes. Donc on est dans un rapport 93-7 qui est pourtant dans un secteur d'avenir. Et tant qu'on sera dans une inégalité économique et qu'on ne donnera pas d'argent aux entreprises qui sont gérées par des femmes, on ne pourra pas faire en sorte de créer une culture du numérique qui soit agréable pour les femmes. Et c'est extrêmement important de financer les entreprises qui appartiennent à des femmes. Pourquoi ? Parce que finalement, elles vont finalement répondre à des besoins via des produits et des services dont les femmes ont vraiment besoin. Et les femmes n'auront plus à s'adapter à un secteur pour pouvoir réussir. Elles pourront être elles-mêmes finalement.
Rebecca Amselen, vous évoquiez ce problème de l'égalité salariale homme-femme. Est-ce que vous estimez que le système mis en place par le gouvernement est suffisant pour supprimer ce véritable scandale, c'est-à-dire que les entreprises doivent publier un index et elles doivent se dénoncer elles-mêmes? Est-ce qu'il ne faudrait pas des mesures beaucoup plus fortes?
Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Le premier élément, et qu'on avait mis en avant avec les Glorieuses en novembre dernier, c'était que à partir du moment où on instaure une culture de la transparence et qu'on fait en sorte que les entreprises publient les salaires au sein de leur entreprise, assez naturellement, on voit notamment dans les autres pays, qu'il y a une tendance à une égalisation des salaires entre les femmes et les hommes. Donc pour ça, je dis trop bien, c'est vraiment très bien. Le deuxième élément, qui est de mettre un index, c'est aussi intéressant. Le problème étant que dans cet index, la plupart des entreprises ont plus de 90 points. En tout cas, elles ont des notes absolument hallucinantes. Et en fait, on a un peu l'impression que cet index a été mis en place pour que les entreprises les utilisent en disant « Regardez, on est des bons élèves et finalement, on n'a pas besoin de faire grand-chose pour finalement arriver à une égalité salariale. » Je pense que si vraiment on veut faire en sorte qu'il y ait une égalité salariale, non pas dans 174 ans comme ça a été indiqué dans les différentes études, mais finalement dans moins d'une génération, il faut qu'il y ait des contraintes économiques et financières qui soient, et des sanctions financière qui soit bien plus élevée. Il faut que ce soit aujourd'hui illégal et impossible pour une entreprise de payer moins une femme qu'un homme. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est pas le cas. Et malheureusement, à mon sens, cet index ne va pas permettre d'endiguer cette inégalité salariale rapidement.
Je rappelle que cet index, cette grille de salaire, ça concerne les 1400 entreprises de plus de 1000 salariés.
Oui, mais ça va s'étendre aux autres entreprises.
Le Standard, Francisco, c'est cela. Francisco est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sur l'antenne, vous vouliez poser une question à nos invités ou faire un commentaire sur cette situation des femmes dans le secteur du numérique ?
Exactement. Alors, pour être très clair, je rejoins tout à fait le constat qui est fait depuis le début de l'émission. Hein. Le numérique est effectivement un monde dominé par les hommes. On y constate de fortes inégalités salariales. J'aimerais juste apporter quelques nuances. Le numérique, c'est très large. Et comme dans la société, c'est assez segmenté. Moi, de mon expérience personnelle, je travaille dans le web. Ce que j'ai constaté, c'est que, par exemple, les métiers effectivement de développeurs, administrateurs réseau sont très trustés par les hommes. Par contre, tout ce qui est communication, marketing, le rapport de force s'inverse. Moi, je fais du web marketing et c'est vrai que j'ai constaté dans diverses entreprises que tout ce qui est, par exemple, chef de produit, shooting, community management, graphisme, UX, donc l'expérience utilisateur sur le site, il y avait une grande partie de femmes, en très grande majorité. Et les hommes, on va dire, c'est plus, entre guillemets, l'arrière-boutique, c'est-à-dire les développeurs, comme on disait, les réseaux, etc. Donc tout ce qui est créatif, alors je dis pas que c'est généralisé, hein, mais je dis que c'était, en tout cas, il y a une forte présence des femmes qui est très positive.
Vous ne retrouvez pas les chiffres catastrophiques que j'énonçais au début de l'émission. Vous ne retrouvez pas cela dans votre travail.
Alors, je nuance parce que moi, je prends dans un petit prisme. Si on regarde l'ensemble dans le tableau, dans son ensemble, les chiffres sont bons et les inégalités existent. Cependant, voilà, par exemple, c'est vrai que s'il y a une grande majorité d'hommes, la proportion de femmes, j'ai l'impression qu'elles se concentrent en tout cas dans certains métiers. Et on va dire, moi en tant qu'homme qui fait du web marketing, c'est vrai que je me retrouve souvent le seul homme au milieu d'une équipe de femmes, ce qui est tout à fait... j'ai rien contre, absolument rien. Mais voilà, c'était juste pour expliquer que le numérique, c'est très large.
Oui.
Et voilà.
Merci Philippe d'avoir témoigné au cours de l'émission sur le site. Ce courriel que je vous lis, c'est pour vous, Marie-Hélène Drivaud, directrice éditoriale du Robert. Que dit le Robert du terme webmaster, webmastriste?
Webmestre en français.
Est-il envisageable?
Webmestre. Et donc, c'est un mot parfaitement épicène. On peut dire un webmestre ou une webmestre. Donc,
webmestre. D'accord. Là, on m'avait écrit sur le courriel webmastrice.
Oui, c'est.
C'est pas beau, ça.
Non, ça c'est master en anglais ER. Il n'y a pas de féminin en français correspondant.
Leslie, au standard du téléphone, sonne. Bonsoir, Leslie.
Bonsoir.
Vous êtes sur l'antenne et on vous écoute.
Alors voilà, moi je suis en classe préparatoire aux grandes écoles, donc en maths P, je passe mes concours bientôt. Et je remarque donc dans ma classe, bon, on est peu de filles par rapport aux garçons, les garçons représentent plus de 2/3 de la classe, mais ça c'est pas nouveau. En tout cas j'ai remarqué ces dernières semaines que suite à un DS de maths par exemple, quand une fille a réussi, mes amies elles ont plus tendance à dire « bon bah voilà, moi j'ai réussi parce que j'avais été aidée par un prof ou j'avais déjà vu ce sujet ou quoi ». Tandis que quand un garçon va réussir, il va dire bah, « moi j'ai bien travaillé et j'ai compris, donc je sais faire et maintenant j'y arrive ». Et je pense que c'est un défaut qu'on a, et moi la première, j'étais la première à le faire avant, maintenant j'y fais attention. On trouve toujours des conditions extérieures qui justifient un peu le fait qu'on ait réussi quelque chose, et ce que les garçons font pas, ou en tout cas beaucoup moins. Et je pense que là-dessus, on pourrait travailler un peu. En tout cas, dans le domaine dans lequel je suis, c'est assez flagrant.
Merci Leslie à Grenoble d'avoir appelé le standard du téléphone sonne. Rebecca Amselem.
Oui, effectivement, je pense
vous
que...
Vous connaissez ce genre de situation?
Oui, bah, je pense que moi aussi je l'ai déjà fait, et effectivement c'est quelque chose de... Je ne sais pas si c'est commun, mais en tout cas j'en ai déjà fait l'expérience, et je pense que c'est pas quelque chose qui est lié à la nature des femmes. On va pas rentrer dans un discours essentialiste et du coup, enfin, qui ne fonctionnerait pas et qui est même faux. Je pense qu'en fait, on apprend finalement aux femmes à avoir honte de leur succès. On apprend aux femmes, du coup, à justifier leur succès par des éléments extérieurs et pas par leur propre mérite, leur propre travail. Alors que finalement, les hommes, eux, on leur apprend absolument pas. Finalement, pas à remercier l'entourage, mais en tout cas à dire que leur environnement y était forcément pour quelque chose. Mais si jamais un homme réussit, il va tout de suite effectivement penser que c'est grâce à lui, grâce à son cerveau, et pas du tout grâce au système patriarcal qui l'entoure.
Merci Rebecca Amselem, merci d'avoir participé à cette émission, fondatrice de la newsletter féministe Les Glorieuses. Merci Marie-Hélène Drivaud, directrice éditoriale du Robert. Et merci à Henri Dagrin à Toulouse. Remerciements pour nos amis des studios de France Bleu Occitanie qui ont permis la réalisation de cette liaison.